Bon, nous continuons notre étude biblique dans Genèse 37. Genèse 37. Dont nous en sommes à l'histoire de Joseph. Donc, Joseph fait le premier songe, il l'expose au verset 6, il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore, donc on avait longuement parlé donc de ce songe et puis et du reste de avant. Et puis, verset 9, il lui eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Voilà. Au verset 11, c'est écrit encore, « Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. » Donc on voit que Dieu donne un premier songe à Joseph, ça lui crée des problèmes, mais Dieu ne s'arrête pas là, il donne un deuxième. Qu'est-ce que ça peut nous faire comprendre sur Dieu? Dieu ne recule pas par rapport aux hommes. Donc nous, normalement, si on veut être sage, dans des cas comme ça, qu'est-ce qu'on ferait? Dire, bon, comme déjà, mon fils, ça lui a créé des problèmes avec ses frères. Je préfère ne plus lui parler, lui expliquer les choses, que c'est lui qui sera grand, c'est celui qui gérera sa famille. Nous, à la place de Dieu, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait dire, bon, je lui dis pas. J'attends que le temps passe. Mais Dieu, j'allais dire têtu, mais il n'est pas têtu. Il est souverain. Et il est ferme sur ses positions parce qu'il sait que ce sont des positions bénéfiques. Il n'a pas tenu compte de la réaction. Il donne encore un autre songe. Donc, ça ne fait qu'empirer la situation. On pourrait dire, mais pourquoi insister autant? Mais voilà, peut-être que voilà, dans sa sagesse, il savait que ça allait vraiment créer la haine suffisante ou la colère suffisante pour amener ce qu'on va voir par la suite. Donc Joseph jeté et ainsi de suite. Mais toujours est-il que on comprend que Dieu ne recule pas parce que les hommes sont mécontents. Donc si Dieu veut mettre un président, même si les hommes sont mécontents, il va le mettre quand même. S'il veut mettre un roi, même si les hommes sont mécontents, il va le mettre quand même parce qu'il sait pourquoi il le fait et il est plus intelligent que nous. Il connaît l'avenir, il connaît les humains, il connaît les circonstances et les situations, il sait mieux que nous. Et il ne recule pas. Donc on voit bien qu'ils étaient mécontents. Même Jacob, le propre serviteur de Dieu, n'est pas d'accord, mais il se dit, il est écrit, il a retenu quand même les choses, parce qu'en tant qu'un homme connaissant Dieu, il s'est dit, ça doit avoir un sens tout ça. Et il a même donné l'explication. Même s'il trouvait l'explication anormale. Et que moi et ta mère, on va se prosterner aussi devant toi. Mais petit, tu deviens fou. Mais il a dit quand même, il a gardé quand même en tête. Parce que bon, en même temps, il devait se dire, mais le petit ne va pas inventer ces choses-là quand même. C'est un songe qu'il a fait.
Et surtout que Joseph, dans ses songes, il ne voit pas, il ne parle pas d'humain. Il ne dit pas que je vous voyais, vous, mais vous prosternez devant moi. Il ne dit pas ça. Il parle dans les songes, c'est d'abord les gerbes. Voilà. Ensuite, c'est la lune, le soleil, les étoiles, 11 étoiles. Donc, ce n'est pas clair. Et clairement dit que c'est eux, mais eux-mêmes, ils comprennent. Donc, je crois que Jacob a dû se dire, mais bon, le petit ne va pas quand même inviter et imaginer inventer plutôt toutes ces images. Voilà, donc, c'est pourquoi c'est resté quand même en lui cette affaire. On se souvient quand même aussi que Jacob a reçu des promesses, voilà, supérieures à son aîné. Donc, il est resté dubitatif, mais ça nous montre aussi qu'on a beau être serviteur de Dieu, pasteur, tout ce qu'on veut, on peut être piqué par l'élévation de quelqu'un d'autre. Ça peut arriver. Donc, ça, qu'on soit piqué voyant quelqu'un d'autre être élevé. C'est pourquoi, appliquons le conseil du Seigneur, mettons-nous toujours à la dernière place. Comme ça, on ne sera jamais piqué de voir quelqu'un d'autre utilisé plus que nous, de voir quelqu'un d'autre élevé par le Seigneur. Parce que soi-même, on se met déjà à la dernière place. J'aime Paul qui dit, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. C'est la solution pour ne pas être piqué par la jalousie, dérangé de voir l'élévation de quelqu'un d'autre. Oui.
Pasteur, est-ce que tu peux faire la différence entre se mettre à la dernière place tel que le Seigneur le demande et certains qui vont le mettre uniquement par esprit d'infériorité? Voilà, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, donc automatiquement ils se mettent à la dernière place.
Oui, oui, ça c'est un esprit de défaite. Donc on se dit, bon, je me sens faible, faux, alors vaut mieux qu'ils me mettent à la dernière place comme ça, je ne m'inquiète plus. Ça, c'est pas bon. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là voudraient bien être à la première place, mais comme ils s'en sentent incapables, ils préfèrent, hein, vous savez, à la manière des gens qui attendent le résultat d'un match ou bien d'un examen, ils se disent, je vais échouer. Comme ça, si j'échoue, je ne suis pas choqué. Si je réussis, je suis content. Donc, il y a des gens qui attendent le résultat d'un match en disant, mon équipe va perdre. Comme ça, si ça perd, bon, je l'avais pensé déjà, je suis tranquille. Mais si ça gagne, ah, je suis content. Ça, c'est une logique de défaite et dans l'orgueil, parce qu'on aimerait bien gagner, mais on ne veut pas souffrir de ne pas gagner, alors on se met à la dernière place. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit qu'on ait une attitude d'amour et d'humilité. Ce n'est pas on le fait pour ne pas souffrir. Non, on le fait parce que c'est beau d'être le dernier, c'est tout. Donc c'est quand tu es dans cette attitude-là, tu es heureux d'être le dernier parce que tu es content de voir les autres plus que toi. Vous connaissez élevé au-dessus de toi l'histoire de... ce n'est pas dans la Bible, hein. On a déjà raconté ça là, de deux frères. C'est une histoire qu'on avait lue quand on était au collège, deux frères qui s'aimaient beaucoup. Il y a un qui était marié et l'autre qui n'était pas marié. Celui qui était marié, non seulement il était marié, il avait des enfants, et l'autre était célibataire. Mais ils avaient reçu le même héritage de leurs parents, dont la même quantité de terrain, et voilà. Et donc, quand il est arrivé au moment de la récolte, il est dit que dans cette histoire-là, que le premier frère qui n'était pas marié, il se disait en lui-même, mon frère qui est marié a des enfants, a une femme, il a beaucoup de charges. Qu'est-ce que je veux faire? Pendant la nuit, il prenait une partie de sa récolte, il venait rajouter en secret pour son frère, pour que son frère ait beaucoup. Mais l'autre frère aussi se disait, mais mon frère, il est célibataire, il est tout seul. Il n'a personne pour le déranger un peu, créer de l'animation, voilà, lui donner une certaine joie. Mais peut-être que la richesse peut lui donner de la joie. Alors lui, il prenait aussi une quantité de sa récolte. Il allait rajouter à son frère célibataire pour que son frère soit content de voir qu'il a beaucoup. Et la fin de l'histoire, c'est qu'ils se retrouvaient tous avec la même quantité. C'est une histoire pour dire l'amour c'est beau et ça rapporte à ceux qui s'aiment. Voilà, ça rapporte. Et c'est dans cet esprit-là que le Seigneur nous demande de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on les aime et on aimerait qu'ils soient au-dessus de nous. Voilà. Et ça pour sous-bassement, l'amour. C'est l'amour qui soutient cet état-là. Mais ce n'est pas une logique. Ah bon, je ne me sens pas fort, alors je me mets à la dernière place comme ça. Je ne suis pas déçu quand d'autres font des exploits. Non, non, non. C'est vraiment qu'on est content parce qu'on aime la personne de la voir au-dessus de nous-mêmes. Et c'est ainsi qu'on peut être préservé de cet état que Jacob a manifesté aussi un tout petit peu, mais sans exagérer. Oui.
Oui, dans ce cas, à quel moment, lorsque le Seigneur décide d'élever une personne, comment être sûr que là, c'est le Seigneur qui décide de m'élever, que ce n'est pas la chair ou ce n'est pas les hommes?
Le Seigneur va convaincre dans les cœurs. Voilà, le Seigneur convainc dans les cœurs parce qu'on voit que Jacob a gardé, malgré sa première réaction de dire, mais petit, nous n'allons pas nous prosterner devant toi quand même. Il est dit qu'il a gardé la chose parce que il a bien senti que, voilà, il y avait un poids dans le songe de Joseph. Il y avait un poids et il a pris ça. Donc je crois que le Saint-Esprit convainc, mais c'est les hommes qui refusent. Voilà, donc le Saint-Esprit convainc. Parce que Joseph, lui, n'interprète pas les songes. Remarquez que c'est Joseph, lui, n'interprète pas. Il donne les songes. C'est les autres qui comprennent. Ah, ce sont ses frères qui ont compris. Mais ils refusent. C'est pas que ils n'ont pas compris. Ils ont compris que Dieu est en train de dire qu'il va élever Joseph. Mais ils refusent. Donc, comme les pharisiens aussi avaient compris que Jésus était le Fils de Dieu. Ils avaient compris. C'est ça la parabole des vignerons. Quand ils ont vu le Fils, ils ont dit « Tuons le Fils ». Comme ça, il n'y a plus d'héritier. Donc, ils avaient bien compris que Jésus était Fils de Dieu, mais ils refusaient. Oui.
Dans le cas où c'est la personne qui était à la dernière place, la personne que Dieu veut élever, pas les gens qui sont autour, la personne que Dieu veut élever, parce qu'il y a des personnes à qui on peut vouloir confier des responsabilités et des fois par humilité ou des fois fausse humilité, ils refusent ou des fois par peur parce qu'ils ne savent pas, mais est-ce que le fait de me donner plus de responsabilités, est-ce que c'est vraiment de Dieu? Est-ce que ce n'est pas lié à mon désir à moi? Est-ce que ce n'est pas lié simplement aux flatteries des hommes?
Ah, voilà. Oui. Pour la personne elle-même, je crois que le Seigneur s'imposera. On ne peut que prier et le Seigneur s'imposera dans leur cœur aussi. Donc on prie et on explique. Voilà. On discute pour savoir d'où vient le refus. Est-ce que si c'est le refus, on sent que c'est la peur? On discute pour convaincre. Non. Moïse a eu peur. Un tel a eu peur, mais ils ont fini par céder et obéir à Dieu. Donc c'est pas par nos propres forces, c'est par la puissance du Seigneur. Donc on est là aussi pour aider par ces explications-là les gens à n'avoir pas peur de prendre des responsabilités. Parce qu'il peut avoir cette peur-là d'échouer. On ne veut pas décevoir le Seigneur. Et donc c'est là qu'on est là pour rappeler, ça ne sera pas par notre propre force, mais ça sera par la force du Seigneur. On tranquillise la personne. Oui.
Il n'était pas prétentieux. Il n'y avait pas de prétention dans ce qu'il fait quand il raconte Joseph son songe.
Ah, pour moi, il n'était pas prétentieux, il racontait.
Voilà, donc il était naturel.
Naturel.
Pourquoi après, autour de lui, c'est comme si il a voulu... alors qu'il était juste naturel. Moi, parfois, j'ai l'impression que souvent... Enfin, quand on fait quelque chose qui est naturel... Parfois, aux yeux des autres, ça peut paraître comme prétentieux alors qu'on le fait naturellement, quoi, sans rien vraiment dans le cœur. Mais parfois, ça peut ressortir comme si on était prétentieux. Quoi.
Moi, je pense que lui n'était pas prétentieux parce qu'il n'a même pas interprété le songe. Il n'a fait que raconter ce qu'il a rêvé. C'est vraiment ça. Donc, il a dit, j'ai vu telle chose la nuit, c'est tout.
Oui, mais ses frères, ils ont pris ça comme s'il était prétentieux.
C'est ce que j'ai dit. Donc là, pour moi, il n'était pas prétentieux. Il a raconté ce qu'il a vu. Voilà. Maintenant, ça a été pris comme ça. Parce que les hommes ont du mal, c'est ce qu'on est en train de dire, à accepter que les autres soient au-dessus d'eux. Voilà. Oui, il y a frère derrière.
Oui, tout à l'heure, tu as parlé d'un certain soubassement. Et j'allais rebondir là-dessus. Bon, tu as donné un petit peu la réponse. C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ont cette réaction-là? C'est comme s'il y avait un soubassement mauvais, donc peut-être le péché que l'homme a en lui, qui fait que face à la pureté ou face à la simplicité, ça active cet élément-là que l'homme a en lui de mauvais.
Effectivement. Donc tu as donné un bon élément. Ça montre que face à la simplicité et à la normalité, on réagit mal. Donc ça montre que en nous, il y avait un problème. Donc comme les gens qui ont crucifié Jésus, quelqu'un qui n'a rien fait, même le juge lui-même, il dit, mais il n'a rien fait. Donc c'était justement son innocence était là pour ressortir la méchanceté des humains. C'est cela. Et donc là, comme tu viens de dire, la simplicité va gêner et finalement, en gênant ainsi, ça montre que les gens ont quelque chose de mauvais en eux. Voilà. Qui se démontre par cette simplicité. Donc on a vu la même réaction avec les frères de David. Quand il vient pour leur donner la nourriture, et il s'exprime clairement, mais pourquoi cet homme manque de respect à... Mais qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui va le battre? Ah, ses frères, son frère réagit mal. Tu es orgueilleux. Voilà. Donc c'est. Or, le petit, lui, il s'exprime normalement par rapport à ce qu'il sent. Lui, il se sent capable de frapper le monsieur. Il le dit. Hein. C'est tout. Oui.
Oui. Quand c'est écrit que son père gardait le souvenir de ces choses, c'est que quelque part il croyait que ça venait de Dieu, ces songes-là?
Oui, je crois.
Donc. Mais alors comment on voit jamais Jacob demander des comptes à Dieu par rapport à la mort de Joseph? Jamais il va lui dire, mais enfin, il y avait des songes, il y avait ceci, il y avait cela.
Je pense qu'il a été convaincu par le sang qu'on lui a montré. Qu'il est mort, c'est fini, c'est tout. Garder, ça ne veut pas dire non plus croire absolument et en faire de ça son projet.
Oui, mais bon, enfin, je sais, enfin, en tant que serviteur de Dieu, bon, quand il se passe quelque chose qui te dépasse, enfin, des fois, on demande comme des explications à Dieu, mais pourquoi t'as permis ça, ou pourquoi ceci, ou pourquoi cela. Mais jamais tu vois Jacob demander quoi que ce soit à Dieu par rapport à la mort de son fils.
Mais ça peut être aussi mis positivement du côté de Jacob qui s'est dit, bon, Dieu l'a pris, bon, il l'a pris, j'accepte. Mais il a gardé en souvenir, mais il n'a pas forcément fait de ça son projet. On l'a dit quand, je ne sais pas, on a abordé quelque chose. Oui, quand Jacob s'est donné le nom d'Israël, lui-même il s'est appelé Israël. On avait dit, c'est une chose de savoir des choses, mais mettre ça en action comme étant un projet, c'est pas tout le monde qui fait ça. Dieu lui donne le nom d'Israël dans le spirituel, lui le pratique physiquement. Beaucoup de gens sont d'accord avec ce qui est écrit, allez faites de toutes les nations des disciples, faites ceci, vous serez le premier. Ils sont d'accord avec tout ça, mais ils ne mettent pas des processus en œuvre pour vivre ça. Et Jacob, lui, il a mis le processus, il s'appelait le Dieu d'Israël. Il a appelé Dieu le Dieu d'Israël. Lui, donc, il a commencé à vivre ce que Dieu lui avait dit. Et donc, en ce qui concerne Joseph, il n'en a pas fait forcément son projet personnel. Il a subi les choses et il a pleuré, c'est tout, en faisant confiance en Dieu. Ok. Donc, nous continuons. Il est écrit au verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. » Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu ? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. » D'où le titre du livre du frère André, « Je cherche mes frères. » « Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici. » Car je les ai entendus dire,
Allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus et moi, où irai-je ? » Il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnu et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. » Et il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Donc voilà comment Ruben agit quand même en aîné. Donc on voit que ça peut toujours, même les gens qui ne sont pas à 100% bons, Dieu peut toujours susciter en eux des sentiments nobles. Ruben était quand même l'aîné de famille. Il n'a pas voulu que son frère soit tué. Et il est dit même qu'il avait l'intention de le soustraire de la citerne pour le ramener à son père. Donc c'est ce qu'on attend d'un aîné, c'est ça. C'est considérer ses petits frères comme étant ses propres enfants. Donc Ruben a considérer la chose ainsi. Il a dit, il a appelé même l'enfant. Voilà, donc c'est cela. Parfois, pour certaines personnes, il faut des chocs pour les réveiller. Peut-être Ruben se comportait en ami de ses frères et sœurs. Au lieu de se comporter, on peut toujours être ami, mais garder une position d'aîné. Je crois que Ruben avait déjà perdu cette position. Il se comportait plus en ami de ses frères et sœurs. C'est pourquoi ils se sont permis, voilà, de faire les choses sans lui. Il n'avait plus l'autorité de l'aîné sur ses frères et sœurs. Parce qu'ils se sont permis de ne pas de le vendre alors que lui n'était pas au courant. Et nous devons faire toujours la part des choses. Le Seigneur dit lui-même, hein, il appelle ses apôtres amis, mais
Il dit, je suis votre maître quand même. Il dit, vous m'appelez maître, c'est vrai, je suis votre maître. Mais toutefois, je vous considère maintenant comme des amis. Donc il ne faut pas parce que quelqu'un se comporte en ami ou bien toi-même tu es responsable, tu te comportes en ami des gens que tu dois diriger, tu fasses perdre l'autorité que tu dois aussi manifester. Donc beaucoup perdent l'autorité, ils restent dans une logique juste amicale. Non, on doit être et dans l'autorité et dans la logique amicale pour rendre les relations agréables. Donc c'est ça, il faut qu'il y ait les deux. Et ce choc-là a réveillé la sensation des nés de Ruben. Il a manifesté ça, nous bénissons le Seigneur. Oui.
Oui, j'allais dire, tu ne penses pas que c'est comme des fois tu le dis souvent, l'autorité, ça s'accepte aussi. Il y a des gens qui refusent aussi l'autorité, même si l'autorité a son autorité, manifeste son autorité. Il y a des gens qui refusent quand même que cette autorité soit leur autorité. Parce que je me dis, ces frères-là, comme déjà au départ, ils étaient compliqués, même avec leur papa. Il y a un qui a pris la femme de son père. Je me dis, bah, c'était des gens qui n'avaient peut-être pas de. Il ne respectait pas les nés, c'était eux qui...
Non, c'est lui-même, Ruben, justement.
Ah, c'est lui qui avait pris la...
C'est lui qui avait pris la forme de son père. Ah, d'accord. Donc, lui-même avait perdu déjà le respect. Donc,
bah, je me dis peut-être qu'on l'a
respecté. Ah ben voilà, plus, il ne s'est pas comporté en aîné. Donc, il a perdu l'autorité, il a perdu le respect. Et maintenant, quand il reprend ça, ah, les autres ne calculent même pas. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quand on est aîné, quand on est en position de chef, vous n'allez pas vous retrouver quelque part. Toi, si tu manifestes la gourmandise, donc tu perds ton autorité. Donc, quand tu es autorité, d'accord, tu es dans l'amitié, tu peux aider les autres, porter leurs bagages, manifester l'amour, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'on voit la différence. Vous arrivez quelque part, on est en train de distribuer la nourriture. Toi, tu laisses d'abord les autres manger, parce que c'est toi l'aîné, c'est toi qui dois souffrir. Donc, c'est ça. Donc, il faut. Et quand on ne respecte pas ce genre de choses, mais on perd l'autorité. Les gens se disent, ah, il aime la nourriture. C'est, voilà. Oui.
Pasteur, concernant Ruben, il ne va pas vraiment jusqu'au bout de sa démarche, puisqu'il aurait pu en amont déjà ne pas le laisser aller dans la citerne.
Oui, mais puisqu'il a déjà perdu l'autorité, tu n'as plus de poids.
Mais du coup, quelle est bon là la conséquence, c'est que Joseph est vendu, mais quelle peut être la conséquence lorsque, par exemple, on a des responsabilités et qu'on ne pour diverses raisons, on ne va pas au bout de peut-être de ce qu'on veut transmettre ou de ce qu'on veut dire à la personne. Quelle peut être la conséquence et pour le responsable et pour la personne qu'on manage?
Non, mais la conséquence, c'est que tout le monde est détruit. Là, c'est parce qu'il y a le plan de Dieu derrière.
Oui.
Mais tout le monde est détruit. Il y a le petit qui est vendu. Et toi, Ruben, tu ne sais pas quoi dire à ton père. Et tout le monde est détruit. Le papa qui pleure. Donc, le monsieur, il dit, je veux mourir en pleurant pour mon fils. Donc, est-ce que c'est... Pour Ruben, c'était une torture de voir son père souffrir comme ça. Lui, il connaît la vérité.
En même temps, il acquiesce puisqu'il n'agit pas.
Il n'agit pas comment?
Bah, dans le sens où il les laisse faire, donc c'est...
Mais il a déjà perdu l'autorité. Déjà, non, là, il a été surpris. Donc, quand il a vu l'enfant qui n'était plus là, il a été surpris. Lui, il croyait les avoir en les laissant dans la citerne et puis retourner en cachette, le sortir. Mais finalement, en son absence, les frères l'ont vendu. Et donc, quand il revient, il n'est plus là.
Oui, mais quand je dis qu'il acquiert, ça veut dire qu'il ne fait pas non plus de démarche pour chercher son frère. Enfin, la Bible peut-être.
Pour aller suivre les marchands ismaélites.
Oui, enfin, à aucun moment, enfin, peut-être que j'ai raté des étapes, mais à aucun moment, on voit aussi que, du coup, le fait qu'il a appris que son frère a été vendu, il ne fait pas de démarche pour rechercher son frère.
Ah non, c'est lui qui a commencé par aller le chercher dans la citerne. Il n'était plus là. C'est alors que les autres lui disent, mais bon, on l'a vendu. Voilà. Non, Ruben, il se réveille. Mais trop tard, il y a eu des dégâts dans le passé Et il avait perdu son autorité. C'est ça le problème.
Donc des dégâts qu'il ne peut pas rattraper lui. Bon, là, la volonté de Dieu a fait que ça se termine bien. Mais du coup, lui, en tant que rebelle...
Mais il va rattraper comment? Les gens voyagent en colonie, en chameau, ils sont déjà loin. Il va rattraper comment?
Non, mais du coup, par exemple, pour l'exposer, enfin, le sortir du cadre de Ruben, pour, lorsque, par exemple, on est responsable, donc c'est plus rattrapable. Est-ce que ça peut être rattrapable?
Avec Dieu, tout est rattrapable. Mais il y a quand même des dégâts qui se font. Donc on souffre alors qu'il ne fallait pas qu'on souffre. Et donc je veux dire aussi que l'autorité se construit hein, très tôt. On ne doit pas attendre d'avoir un titre pour manifester l'autorité. On doit très tôt se comporter en responsable que les gens voient comment... au fait que ce ne soit pas le titre qui fasse asseoir, ce n'est pas parce que qu'on dise qu'il est aîné. Non, qu'on voit le comportement d'aîné, qu'on voit le comportement des responsables, c'est ça qui met l'autorité. Mais quand tu n'as pas ce comportement-là, les gens, ben, ils ne vont pas non plus te respecter. Donc il faut soi-même manifester l'esprit de responsabilité. Vous savez, quand on est dans un bateau, normalement, quand ça coule, par tradition, le capitaine reste le dernier. Donc, mais là, dernièrement, on a vu le truc Costa, ça a coulé, le capitaine est sorti parmi les premiers. Mais on ne l'a plus respecté, cet homme-là. On ne l'a plus du tout respecté. Donc, mais quand tu sors parmi les derniers, et quand tu reprends un autre bateau, tous les matelots qui sont là, tous les ouvriers, mais tout le monde te respecte, ils savent que cet homme est un vrai chef. Il est resté le dernier. Lorsque le dernier bateau a coulé. C'est ça. Donc je crois que c'est... Ruben a voulu maintenant utiliser l'autorité, mais ça n'a pas marché. Parce qu'il avait déjà perdu.
Mais du coup, rien... Pourquoi il ne le dit pas à son père?
Pourquoi il ne le dit pas à son père?
Parce qu'il sait la vérité. Il sait que son frère n'est pas mort. Mais quand les autres rentrent et disent que le frère est mort, à aucun moment, il s'oppose et il essaie de rétablir la vérité non plus.
Non, je crois que là... Il est pris par... Il a perdu l'autorité, il a fait une bêtise. Il a peur que son père le réprimande sérieusement. Donc ça va devenir son problème avec son père. Parce que son père, lui, va condamner Ruben. Donc il a peur de son père. C'est la peur.
C'est pas le non... Parce qu'il aurait pu se sacrifier, là. L'esprit de sacrifice, c'est disant...
Quoi?
Il aurait pu se sacrifier en se disant que j'assume, mon père va
ah
me répondre.
Non, il a peur, mais... il n'a pas voulu. C'est l'égoïsme.
D'accord.
Il n'a pas voulu que ça tombe sur lui.
D'accord. Donc, okay.
En fait, là, on ne nous dit pas que Ruben il est au courant. Hein. On nous dit que Ruben vint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne, il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit « L'enfant n'y est plus et moi, où irai-je ?» Et après, on ne nous dit pas du tout que les frères l'ont mis au courant. Donc, en fait, Ruben, on ne sait pas s'il sait si son frère est vivant ou mort. Voilà, ce n'est pas marqué, en tout cas.
D'accord, c'est vrai, ce n'est pas marqué. Mais bon, on peut penser quand même que par la suite, quand les événements vont les amener en Égypte, on peut penser qu'il était au courant, la façon dont... On va lire. Mais... Toujours est-il que... Oui?
Oui, moi c'était juste une remarque au verset 20, quand c'est marqué, ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive, venez maintenant, tuez-le, et jetez-le dans une citerne, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Moi ça me fait penser en fait au verset que tu avais dit en fait dimanche dernier, quand c'était marqué Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai... vous qui tuez les prophètes et vous qui les lapidez, ceux qui sont envoyés, combien de fois j'ai voulu...
Effectivement, ça nous rappelle cela. On allait dire ça en conclusion, que, donc là on est obligé d'en parler, que Joseph est un type de Christ. Donc Joseph est ce qu'on appelle un type de Christ. On l'a déjà dit, ce terme-là, dans d'autres études bibliques, un type de Christ, c'est quelqu'un qui a une vie comme Jésus avant que Jésus ne vienne. Donc il y en a beaucoup dans la Bible... Mais les principaux et les plus grands, surtout, c'est Joseph. Et les principaux sont Joseph, sont David, Moïse, Josué. Donc les quatre là sont vraiment les grands types de Christ
puisqu'il y en a d'autres. Il y a Isaac aussi qui est un type de Christ, parce qu'il a failli être sacrifié. Et c'était le fils unique de la promesse. Donc, il a, comme Jésus, il a été sacrifié. Il a donc été en quelque sorte sacrifié comme le Seigneur, comme l'agneau. Par contre, Joseph, Moïse, David sont vraiment des types très forts parce qu'il y a beaucoup de ressemblances dans beaucoup d'étapes de leur vie avec Jésus. Joseph étant le type le plus grand de Christ, parce que Joseph, en plus de tout ça, on ne cite pas son péché dans la Bible. Donc c'est là qu'il est vraiment un type très fort de Christ. Et donc là, il y a un premier élément, c'est que Joseph reçoit le mandat de Dieu directement. Et il reçoit le mandat d'être le roi de sa famille. C'est ça que Jésus est, quoi, le roi d'Israël. Donc il reçoit le mandat d'être le roi de sa famille directement de Dieu. Et c'est comme l'envoi du Seigneur. Et il est rejeté par ses frères. C'est ce qui s'est passé avec Jésus, jusqu'en quelque sorte à le tuer. Donc c'est ça qui se passe là. Venons, tuez-le. Donc tuons-le comme l'histoire que Jésus raconte. Je vous ai envoyé des prophètes, je les avais tués, mais dans la parabole des vignerons, on dit, voici le fils, tuons-le, comme ça il n'y a pas d'héritage. C'est la même logique avec Joseph. Et dans la suite, on va le voir, Joseph va épouser une étrangère. Dans la suite, rejeté par ses frères, il épouse une femme égyptienne. Jésus a été rejeté par ses frères et il nous a épousé, nous, l'Église, qui étions de non-juifs, et des étrangers. Il nous a épousés. Après ce mariage avec nous, il va revenir avec nous, sauver ses propres frères. C'est ce que Joseph a fait. Il a sauvé ensuite ses propres frères, ensemble avec la nouvelle famille qu'il a eue. Donc c'est ça, oui.
Oui, en revenant sur Ruben, nous lisons au verset 29. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Là, il s'agit de Ruben avec ses frères.
Oui, oui.
Quand
oui,
il revient, Joseph n'est pas dans la citerne.
Oui, oui.
Mais quand il faut tuer le bouc et faire croire au papa, au père, que l'enfant a été tué, il participe lui aussi avec les autres. Donc, oui, oui. À mon avis, si ce n'est pas dit clairement, il est quand même au courant qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec Joseph. Je pense que ses frères lui ont fait part qu'ils ont vendu Joseph, même si ce n'est pas écrit, parce qu'il participe à la supercherie lui aussi.
Oui, c'est pourquoi je disais que la façon dont les choses se passent même dans la suite, ça donne l'impression qu'il est au courant. Mais bon, comme ce n'est pas écrit, ce n'est pas écrit. Donc, mais la chose qui est là, c'est que Ruben se réveille et malheureusement, c'est trop tard. Pour cette affaire-là, c'est trop tard. Il a perdu l'autorité. Les frères ont fait des choses sans lui et finalement, son égoïsme fait qu'il préfère sauver sa peau au lieu de se dénoncer et dénoncer les frères. Donc, il préfère sauver sa peau et auprès de Jacob, dire qu'il y a eu meurtre donc, de son frère. Et Jacob est triste à mourir. Voilà, donc au verset 28, donc c'est Joseph est vendu aux commerçants qui finissent par le vendre en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Nous passons au chapitre 39. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait.
Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Voilà l'état de Joseph en Égypte dans la maison de Potiphar. Ça nous montre que le Seigneur équilibre toujours. Il ne va pas nous faire souffrir, nous laisser souffrir continuellement. Donc il y a la souffrance d'avoir perdu sa famille, mais il y a la paix, la joie, la bénédiction de voir Dieu glorifier son nom à travers tout ce que lui touche. Le Seigneur équilibre, il est bon. Donc c'est, mais nous avons souvent limité la manifestation de sa gloire en refusant les épreuves. Donc là, jusque-là, on ne montre nulle part où Joseph conteste. Le manque de contestation, c'est une forme c'est l'acceptation de la volonté de Dieu. C'est une forme de foi. Je ne parle pas de la résignation. La résignation, c'est que, ah, qu'il en soit ainsi, j'ai pas le choix. Qu'est-ce que j'y peux? Je peux rien faire devant les situations. Ça, c'est la résignation. Mais l'acceptation, c'est que Dieu, c'est une façon de dire, Dieu sait ce qu'il fait. J'accepte sa volonté. Je sais qu'il est avec moi. Il sait ce qu'il fait. Je ne le condamne pas. Et le Seigneur manifeste sa gloire quand on est dans l'acceptation. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'acceptation ne se trouve plus dans les chrétiens. Parce qu'on vit dans une société où on n'accepte plus rien dans notre société. On veut tout résoudre comme problème. On va avec la chirurgie esthétique. Tu as un gros nez, chirurgie esthétique. Problème de cheveux. Ça s'appelle quoi, intervention où on t'ajoute le... intervention capillaire. Donc on te rajoute les cheveux un à un par un médecin. Donc l'humanité n'accepte plus d'accepter les choses. Il faut tout changer. On a des tendances homosexuelles, ah, on veut légaliser ça. Donc on n'accepte plus que quelque chose soit une difficulté. Et ça s'est transmis aux chrétiens. Ils n'acceptent plus la difficulté, ils n'acceptent plus l'échec, ils n'acceptent plus... Tout ce que je dis là, c'est des apparents échecs, ce n'est pas des vrais échecs, parce qu'avec Dieu, on n'échoue jamais. Mais c'est des processus, il y a des processus avec Dieu. Les chrétiens n'acceptent plus ces processus. C'est pourquoi ils ne vivent plus la gloire que Joseph vivait, parce que Joseph était heureux, parce que malgré la perte de la famille, il y avait la gloire. Cette gloire-là, lui... Le consoler complètement. Il voyait la main de Dieu. Et les gens qui l'entouraient pouvaient voir cette main. Potiphar voyait que ce garçon-là, quand il touche quelque chose, il y a la prospérité parce que Joseph acceptait la situation. Joseph était dans l'obéissance à Dieu pour dire, bon, Dieu sait ce qu'il fait, je lui fais confiance. Moi, je fais ma part, il fera sa part. Et Joseph vivait la gloire de Dieu. Mais tant qu'on est sur terre, oui, il y a frère derrière. Le diable va toujours chercher à contre-attaquer. Oui.
Oui, c'est une question par rapport à ce qui est écrit dans le passage. Quand on dit que Potiphar, quand la Bible dit que Potiphar vit que l'Éternel était avec lui. Question, c'est comment on peut interpréter ça? Est-ce que Potiphar, lui, il connaissait l'Éternel, mais le fait que ce soit un Égyptien, ou est-ce que ce sont les œuvres que manifestait Joseph qui lui montraient que Joseph était différent?
Ah non, donc Potiphar, comme les gens de cette époque-là, croyaient, ils avaient plusieurs dieux, eux, mais ils croyaient à la divinité. Et donc, il a bien compris que Joseph avait un dieu. Et c'est ce dieu-là qui agissait. Il a bien compris ça.
D'accord. Donc, en fait, c'est qu'il voyait que Joseph était animé par un dieu, mais pas le sien.
Voilà. Et donc, est-ce qu'il a eu une discussion, certainement, avec Joseph, qui lui a dit, moi, je crois en l'Éternel. Et c'est lui qui agit. Oui, il y a Ginette devant. Mais cela montre que quand le Seigneur est avec nous, les étrangers vont le voir. Ils vont le voir certainement.
Quand on parle avec Dieu, des fois on ne comprend pas les choses. Est-ce que c'est mal de contester un petit peu au début avec Dieu, de lui dire « je ne comprends pas », tout ça, mais on finit la conversation en acceptant?
Moi, je ne peux pas conseiller ça. Moi, je suis, comment on appelle ça en français? Je suis poltron vis-à-vis de Dieu. Donc, je ne conteste jamais. Tout ce qu'il fait, j'accepte. Donc, maintenant, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de contester. Je peux que dire, acceptons. Maintenant, si tu as contesté, je te dis, tu peux encore toujours te rattraper.
Mais, OK, quand on parle avec Dieu, bon, je ne sais pas... On ne demande jamais des questions à Dieu. Dire, Seigneur, c'est pas pour me plaindre ou critiquer, mais comme je comprends pas.
Ah oui, on peut
pas,
poser des questions.
Je comprends pas.
Par contre, le conseil que je donnerais à quelqu'un, je lui dirais, au lieu d'accepter en murmurant, conteste. Voilà, oui. Donc, premier conseil, il faut accepter et s'attendre à Dieu. Deuxième conseil, si quelqu'un me dit, je vois que la personne murmure, il n'est pas content, il est en colère, mais il est là toujours dans la volonté de Dieu, je vais lui dire, discute avec Dieu. Dis-lui que tu n'es pas d'accord, tu n'es pas content, pour que lui t'explique pourquoi il fait tout ça. Je lui donnerai ce conseil-là. Donc je ne l'empêcherai pas de contester, mais dans la recherche de la réponse de Dieu. Oui, je peux donner ce conseil-là, mais ce n'est pas le conseil que je donne en premier. Le conseil en premier, c'est l'acceptation. Maintenant, si quelqu'un continue à dire, mais oui, mais je ne comprends pas quand même, et commence à faire le philosophe, il dit, mais là, manifeste-toi, parle à Dieu, parce que souvent, les gens nous parlent à nous. Et c'est nous qui cherchons des explications à leur donner. Donc, à un moment donné, je vais lui dire, non, mais écoute, là, tu m'as suffisamment parlé, conteste auprès de Dieu lui-même, explique-lui que tu n'es pas d'accord. Voilà, il va t'expliquer.
Mais tu viens de dire, je veux juste, comme pour ne pas rentrer dans le péché, on veut demander des questions à Dieu, mais on ne veut pas être dans la contestation, on peut être dans les questionnements, on peut...
On peut
s'attendre à pas avoir de réponse.
Non, moi je dis, il faut que ce soit clair. Au lieu de rester dans le doute et le murmure, vaut mieux questionner. Maintenant, si on est prêt à accepter, considérant la toute-puissance et la toute-connaissance de Dieu, c'est le premier conseil que je donne.
Okay.
Voilà.
Parce qu'on ne sait pas si Joseph a questionné ou pas. Il n'y a rien d'écrit.
En tout cas, il n'y a rien d'écrit.
C'est ça.
Oui.
Parce qu'il devait parler à Dieu.
Quand Job a contesté, c'est écrit.
Oui.
Voilà. Pour Joseph, il n'y a rien d'écrit. Et on voit qu'il y a une gloire aussi extraordinaire. Hein. Donc, ça veut dire que l'étranger lui-même voit que tout ce que fait ce garçon-là, ça marche. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, on voit que c'est Dieu était avec lui bien comme il faut. Bien comme il faut. Mais je suis en train de soulever ça pour dire qu'aujourd'hui, tout ça n'est plus visible parce que nous n'acceptons plus les difficultés. Voilà. Ce n'est plus visible, une telle gloire, parce que nous n'acceptons plus les difficultés. Nous voulons résoudre tous les problèmes à l'instant même. Nous ne voulons pas laisser Dieu faire et supporter pendant un temps. On ne veut plus. Tellement on veut résoudre, on finit par utiliser nos propres moyens et Dieu n'a plus sa place. Mais quand quelqu'un accepte de perdre et laisse l'opportunité à Dieu d'utiliser sa capacité à lui. C'est ça.
Mais il y a des gens qui sont dans des situations qui ne peuvent absolument rien faire, donc ils ne vont peut-être pas demander des solutions qu'eux pourraient faire. Tu sais, comme ils sont au bout de la situation, ils ne peuvent rien faire. Mais d'autres personnes sont dans des situations où ils se demandent, ben Seigneur, peut-être que je pourrais faire quelque chose. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour changer la situation?
En tout cas, déjà, moi, c'est mal parti, là. Donc, quand tu demandes à Dieu, qu'est-ce que moi je peux faire? Donc, Dieu dit, toi, qu'est-ce que tu peux faire, toi? Déjà, c'est mal parti.
Ah ouais.
Voilà. Okay. C'est mal parti, oui.
Pasteur, oui. Il y a des choses aussi qui peuvent se passer, qui peuvent venir de l'adversaire aussi.
Oui, Dieu est plus fort que l'adversaire.
Alors ça veut dire que quand ça vient de l'adversaire, Dieu permet.
Dieu permet, et si Dieu veut qu'on réagisse, il nous inspirera de réagir. Mais nous, on ne doit pas chercher la solution à tout prix. On doit faire notre part et avoir des temps d'attente. Sincèrement, Joseph étant devenu ainsi aimé de Potiphar et riche, ne pouvait-il pas négocier son retour? Il pouvait. Ne pouvait-il pas fuir? Il pouvait. Il était devenu très riche. Il pouvait en 3 jours organiser sa fuite. Mais il n'a pas fait. C'est cela qu'on est en train d'expliquer, que nous, en tant que chrétiens, on devrait être à l'écoute du Saint-Esprit, ne pas chercher à s'en sortir tout le temps. Il y a des moments où Dieu ne veut pas qu'on s'en sorte, parce qu'il veut faire une action glorieuse et ça demande qu'on le laisse faire. C'est cela. Je c'est pas encore fini. Tu peux parler, hein? Non, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, mais ça n'a pas continué. Tout le temps, il est écrit au verset 7 toujours, au verset 6, « Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoi qu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix, et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Voilà. encore une épreuve où Joseph est traité injustement. Donc, il faut qu'on relève ce caractère injuste des affaires. Parce que c'est ce que notre frère Pierre. Si encore on nous frappe pour le mal qu'on a fait, c'est illogique. Or, nous sommes des enfants de lumière, des enfants de bien. Souvent, on nous frappera injustement, puisque si on commence à nous frapper logiquement, c'est qu'on est des enfants du monde, donc on est en train de faire des bêtises tout le temps. Mais comme on est des enfants de Dieu, donc on a un bon comportement, on nous frappera, on nous fera du mal, souvent injustement. Or, qu'est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui des enfants de Dieu? Ils ne veulent plus subir l'injustice. Mais comment on peut te faire du mal justement si tu es un enfant de Dieu? Ça va forcément être injustement parce que toi, tu es correct. C'est ça la réalité. Et Joseph subit encore une injustice. Donc, il avait déjà subi avec sa propre famille l'injustice. Et là, une fois de plus, l'injustice. On a entendu des gens dans mon bureau dire « Ah ben moi, depuis que je suis enfant, tout est contre moi. » Mais Joseph, qu'est-ce que... Joseph, pareil. Donc, il y a des gens qui disent « Oui, mon père m'a fait ceci. J'arrive à l'école, c'était comme ça. À l'église encore, on me crée des problèmes. Pasteur, mais est-ce que Dieu... » Mais dorénavant, je vais commencer à leur sortir le nom de Joseph. Eh bien, Joseph aussi est passé par les mêmes étapes que toi. Mais il n'a jamais dit que Dieu le détestait. Il n'a jamais dit... Parce qu'il savait que Dieu est tout-puissant. Dieu va s'occuper de lui. Et Joseph, une fois de plus... Quelqu'un me dira peut-être qu'il avait contesté, mais ça restera dans le peut-être. Mais une fois de plus, on ne voit pas Joseph contester ni vis-à-vis de Potiphar, ni vis-à-vis de la femme, ni vis-à-vis de qui que ce soit. C'est vraiment l'agneau de Dieu. Voilà, c'est le plus grand type de Christ, Joseph. Il ressemble trop à Jésus. Comme on dit aujourd'hui, hein, il ressemble beaucoup à Jésus. Il ne conteste pas, il entre en prison. L'agneau de Dieu. Et finalement, la gloire du Seigneur se manifeste encore en prison. Oui.
Je voulais faire le parallèle avec Adam. Lorsque Joseph s'exprime et qu'il dit à la femme de Potiphar, « Voilà, je suis aussi grand que lui dans cette maison, donc je suis égal à lui, j'ai tout. Mais il y a une seule chose qu'il m'a demandé de ne pas toucher, c'est toi. » Donc on voit que cette épreuve-là qui a été finalement la même pour Adam, à qui il avait tout finalement, et que Dieu lui avait simplement demandé de ne pas toucher à un arbre, ben il a échoué.
Effectivement. Une fois de plus, tu nous confirmes que Joseph est le type de Christ, puisque Christ a réussi ce qu'Adam avait échoué. Donc, Dieu lui a tout donné et Jésus a accepté quand même que Dieu reste toujours au-dessus de lui. Le Père reste au-dessus de lui. Et Joseph dit la même chose. Il dit donc, Potiphar ici, c'est comme moi. Donc, je dirige même, il n'est même pas plus grand que moi, puisqu'il m'a tout donné ici dans sa maison. Sauf ne pas toucher à toi. Sauf ça. Joseph a réussi l'épreuve d'Adam, qu'Adam a échoué. Joseph a dit, j'ai déjà tout, pourquoi toucher jusqu'à ça? Il a refusé. Mais comme en réalité, c'est la curiosité d'Adam qui l'a tué. Il a voulu savoir tout ce que Dieu savait, donc l'orgueil, on veut être comme Dieu. Et Joseph n'a pas voulu de cette curiosité-là, de cet orgueil-là, de vouloir être semblable à son maître à tout, en tout point. Il a dit non. Je suis semblable à lui jusqu'au niveau qu'il m'a donné. Je ne veux pas être semblable en tout point. Et c'est cela qui fait de Joseph un type de Christ exceptionnel. Oui.
Oui, on ne reparle pas après de Potiphar, mais est-ce que tu crois qu'après avoir vu la vie de Joseph, le comportement qu'il avait, est-ce que vraiment il pensait qu'il avait pris sa femme?
Moi, le commentaire que je peux donner, c'est que il y a eu un vrai complot que Potiphar a subi. Donc je crois que Potiphar a réagi aussi pour contenter les Égyptiens, puisque sa femme a préparé le coup en intéressant tous les serviteurs en disant « Il nous a, il parle de son mari comme d'un étranger, il nous a amené
un Hébreu, c'est son mari qui l'accuse. Il nous a amené un Hébreu, donc sa femme a arrangé une grosse pression de sorte que quand Potiphar arrive, il est faible face à la pression préparée par la femme. Donc je suis un peu d'accord avec toi pour dire que je ne pense pas que Potiphar soit à 100% certain que Joseph soit coupable. Mais il a subi une pression terrible, tout était déjà préparé. En fait, s'il osait faire le contraire, il allait subir des foudres, voilà, incommensurables de sa femme et de son entourage. Il a fait le choix de Pilate de dire, bon, faites ce que vous voulez, je fais ce que vous voulez, voilà, je fais ce que vous voulez. C'est le choix de Pilate. Ça nous ramène toujours à Jésus, Joseph type de Christ, et en prison, même chose, la gloire de Dieu se manifeste, même en prison. Ça nous rappelle encore le Seigneur qui est descendu dans sa mort, dans la prison de la terre, et là-bas, la gloire de Dieu s'est manifestée, il a libéré les captifs. Voilà, donc là, Joseph entre en prison et la gloire de Dieu se manifeste malgré le fait qu'il est en prison.
Oui, Joseph me fait penser à Jésus devant... comment il s'appelle ? Oh là là. En fait, Jésus était devant Pilate, voilà. Et à cause de la pression des hommes, eh ben, Pilate a cédé.
Il a cédé.
Voilà.
Donc Potiphar,
voilà.
Il y a une pression qui a été préparée pour qu'il ne fasse pas autre chose que... Voilà, oui. C'est ça. Et au chapitre 40, pour moi, le chapitre le plus dur, après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous deux tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les trois sarments sont trois jours. Encore trois jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe
trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. Les trois corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. » Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le verset le plus dur, le verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Ça me fend le cœur. Parce que tu te dis, mais comment peut-on oublier la personne qui t'a sauvé? C'est écrit, il ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Ça montre, un, la nature humaine. L'homme, quand il a réussi son coup, il peut oublier son passé. Il peut oublier l'entourage, il peut oublier les gens qui l'ont aidé. Voilà, ça c'est la nature humaine. Il l'oublia. Mais ce n'est pas trop ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que pouvait ressentir Joseph. Ça nous rappelle, mon Dieu, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi m'as-tu abandonné? Que devait... Joseph, il dit, moi je n'ai rien fait. Mais quand même Dieu... Voilà. D'abord, mes frères, Potiphar, prison. Maintenant, je fais cet exploit. Normalement, la conséquence, c'est quoi? Quand on fait un exploit, c'est qu'on soit félicité. Normalement, quand on fait un exploit, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on soit élevé. Et c'est ça le problème. Beaucoup de gens disent, mais comment, avec tout le bien que je fais, on peut encore me détester? On peut encore me critiquer. Et Jésus a guéri les malades, il a prêché, il a pris l'argent de personne, il a multiplié les pains. Mais comment ça, c'est ça qui... C'est le seul moment où Jésus tremble et c'est le seul moment où Joseph tremble aussi. C'est-à-dire de se sentir comme oublié par Dieu. Parce que il demande l'aide d'un homme. C'est la première fois qu'on voit Joseph parler en quelque sorte. La première fois, il s'est senti comme oublié par Dieu. Parce qu'il dit à l'homme, pense à moi. Je crois que ça, c'est le moment le plus difficile qui peut nous arriver. Ce n'est pas les attaques du diable. C'est d'avoir la sensation que c'est Dieu lui-même qui t'a oublié. Ou encore qui n'existe pas. C'est ça le moment qui peut être très dur pour nous, nous tous. C'est notre grosse tentation, c'est notre grande tentation. C'est ce qui fait que beaucoup finissent par changer de camp et qu'ils sont convaincus que Dieu les a oubliés. Alors ils changent de camp. Et on a vu les apôtres quand Jésus leur demande « Pourquoi vous ne changez pas de camp? Pourquoi vous ne partez pas ?» Ils ont dit « C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Je pense, bien aimé, même si ça peut nous arriver, cette sensation-là. Mais le diable va nous donner quoi? Nous tous, on a été parfois perturbés. Mais quand tu te dis, mais si je change de camp, qu'est-ce que je vais recevoir? Alors, tu regardes bien tous ceux qui ont servi le diable, comment ils ont fini. Tu regardes bien tous ceux qui sont dans l'autre camp, comment ils sont soit esclaves de la cocaïne, esclaves de l'impudicité, esclaves du monde, tu vois comment ils sont pas bien, même parfois étant riches, mais comment ils sont réduits à des actes graves. Il y en a qui vont dans les cimetières prier des esprits. Quand tu vois tout ça, tu dis non, ce n'est pas pour moi. C'est ce que notre frère Azaph a ressenti dans le psaume 73. Il a dit, ah, mais les riches prospèrent. Nous, on est comme oubliés. Nous qui servons Dieu, on est comme oubliés. J'ai même envie d'aller dans l'autre camp. Il dit, ah, mais je sens que ça, ce n'est pas pour moi. L'autre camp, ce n'est pas pour moi. Ma nature ne correspond pas à l'autre camp. C'est vrai, même quand on se sent oublié, quand on est vraiment de Dieu, on sent que nous, on n'aura pas la force de prendre l'argent de quelqu'un d'autre. Tu sens que ce n'est pas pour toi. Est-ce que toi, tu auras la force de laisser des millions de personnes affamées pour que toi, tu aies des Mercedes, des châteaux? Tu sens que ça, ce n'est pas pour toi. Tu sens que ce qu'eux, ils font, toi, tu ne pourras pas le faire. Même, voilà, même si tu es, entre guillemets, comme déçu par Dieu, tu es incapable de faire ce que ces gens-là font. Tu es incapable de boire du sang humain. Tu sens que non, ce n'est pas pour moi. Et Joseph a eu la même pression. Oublié à tel point que il tremble et il parle à un homme. C'est la première fois qu'on voit une sorte de faiblesse de Joseph. Et il dit, mais quand tu vas sortir, verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Voilà. Pour une fois, on voit Joseph trembler, chercher le secours de l'homme. Mais Dieu ne l'a pas donné. Heureusement. Heureusement. Bien-aimé, ça c'est un grand enseignement pour nous. Attention à la facilité. Attention à chercher le secours de l'homme pour tout régler. Attention. Demandons que Dieu lui-même nous aide. Et s'il utilise les hommes, gloire à Dieu. Et si Dieu veut qu'on demande le secours d'un homme, que ça vienne de lui, que ça vienne pas de notre dépit. On est dépité, on est en colère, on est fatigué et on cherche le secours de l'homme. Non. Il faut que ce soit une instruction divine. Va dans tel endroit, tu trouveras un anneau. Prends cet anneau-là, si on te demande, tu dis le maître en a besoin. Donc c'est l'instruction du maître. Mais que dépité, fatigué, on commence à mendier, chercher le secours des hommes. Mais quand on est vraiment de Dieu, Dieu va empêcher cela. Les hommes ne pourront pas nous secourir. Comme ça, on est vraiment bien seul. Oui.
Qu'est-ce qui allait changer? Parce que là, c'est, on montre que, après, on montre que c'est au bout de 2 ans quand même que... voilà.
J'ai pas bien... Le son n'est pas fort.
Je demandais, qu'est-ce qui a changé? Parce que là, on voit que au bout de 2 ans, c'est écrit après dans le verset suivant, dans le chapitre suivant, qui voilà que Pharaon a pu voilà recevoir la signification. Mais je me dis, parce que là, il a parlé à ce serviteur là que s'il sortait, qu'il puisse penser à lui. Bah, ça allait revenir au même. Il allait parler à Pharaon et Pharaon allait voilà aller le faire sortir. Il allait savoir que non, voilà, il a expliqué un songe qui s'est accompli. Et pourquoi attendre 2 ans? En fait, moi, je ne vois pas pourquoi attendre 2 ans. Parce que si le monsieur était sorti qui servait le jeu au Pharaon, s'il était sorti, il avait parlé de lui, il était sorti, bah, ça allait revenir au même que d'attendre 2 ans pour qu'il sorte après que Pharaon puisse avoir un songe. Je ne comprends pas pourquoi il fallait attendre 2 ans.
Pourquoi Dieu fait attendre 2 ans?
Oui, parce que ça allait revenir, c'est Pharaon qui allait se faire sortir dans tous les cas. Mais si le monsieur avait parlé de lui...
Mais Dieu soigne la construction de ses serviteurs. Il fallait briser Joseph jusqu'au bout, jusqu'à la moelle. Il fallait sortir un Joseph fort, simple et humble vis-à-vis de Dieu. Il fallait le travailler jusqu'à la moelle. Donc ça, donc le peu de faiblesse qu'il y avait en Joseph, de pouvoir compter sur l'homme, il fallait que Dieu enlève ça. Voilà. Il fallait vraiment que Joseph apprenne à compter que sur Dieu seul. Donc, c'est ça. Donc, on a dit qu'on ne voyait pas de faiblesse en Joseph. Mais là, on voit une faiblesse. Il a voulu compter sur l'homme. Et ça, on l'a vu. Voilà. Comment dire? On le voit avec combien de serviteurs de Dieu qui se corrompent parce qu'à un moment donné, ils veulent compter sur l'homme. Donc, ils mettent des concerts payants, campagnes, séminaires payants. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'homme doit contribuer. Mais Dieu dit, non, 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 si tu es vraiment son serviteur, c'est lui. Vous savez, Jésus est parti loin. Jésus a dit à ses apôtres de ne même pas prendre leur propre bien. C'est, là, lui, il est parti. Donc, vous ne prenez même pas votre propre argent. Vous allez comme ça. Et quand ils sont revenus, il leur a dit, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Oh, non. Voilà. C'est cela. Donc, Joseph devait être élevé dans la pure sainteté de Dieu. Donc, quelque chose de parfait. Donc, c'est pourquoi le Seigneur a fait que l'homme puisse oublier Joseph, afin que Joseph se ressaisisse et reste accroché à Dieu seul et s'attende à lui. Et on l'a dit précédemment, à chaque fois qu'on est dans cette acceptation-là, il y a une grande gloire qui vient. Et on sait ce que, on va en parler la fois prochaine, la gloire qui est venue, c'est que Joseph est devenu maintenant au même niveau que Pharaon, sauf pour certaines choses, c'est ça. Donc c'est que Joseph a accepté une fois de plus qu'on l'oublie. Voilà. Il avait voulu réagir, on se souvient de Jésus aussi, il a voulu réagir à Gethsémané pour dire, ah Seigneur, là c'est beaucoup trop. Mais il s'est ressaisi, on lui a envoyé l'ange, l'ange l'a fortifié et il est parti jusqu'au bout. Et là Joseph a voulu aussi trembler, faire recours, faire appel à l'homme, mais il s'est ressaisi, il a dit non. De toute façon, là on l'a oublié. Il est écrit, on l'a oublié. Et combien de fois, nous, on ne veut pas qu'on oublie, on nous oublie. Ah oui, moi, j'ai fait telle chose pour un tel, j'ai fait ceci pour un tel, j'ai fait ceci, j'ai été fidèle, je n'ai pas... Non, bien-aimé, nous devons faire les choses que pour le Seigneur. Même quand on les fait pour les autres, c'est pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non... pour les hommes. Colossiens 3, chapitre 23. Donc, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Non pour les hommes, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Donc, c'est tout. Si on commence à dire, ah, mais oui, moi, je fais ceci, je fais cela, personne ne m'appelle pour me dire merci. Personne ne m'appelle. Ah, là, on sort de la parole de Dieu. Personne ne m'a félicité, personne n'a reconnu. Un tel, d'ailleurs, c'est moi qui l'ai fait étudier, c'est moi qui ai fait ceci. Mais non. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ainsi, votre Dieu qui est tout-puissant et qui voit tout, lui-même, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 58, tout ce que nous faisons pour Dieu, il ne le prend pas en vain. Il va manifester sa récompense d'une manière ou d'une autre. Du moins son approbation, puisque la récompense est surtout céleste. Mais son approbation, sa gloire, il va la manifester. Il montrera qu'on est de lui. On a reçu la pensée du jour. Tu as peu de puissance, mais puisque tu as peu de puissance, je vais montrer que c'est, je suis avec toi. Parce que tu as gardé ma parole, je ferai que les gens verront que je suis avec toi. Voilà, Dieu fera que les gens verront ça. Même s'il y a un temps où on a peu de puissance, il y a un temps où on paraît faible, il y a un temps où on paraît oublié, quand on accepte ce temps-là, Dieu montrera qu'il est avec nous. C'est ce temps-là qu'on doit accepter. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, que nous vivons dans un temps où les gens veulent du tic au tac. Voilà. Il manque telle chose de chirurgie esthétique. Il manque telle chose de crédit. Il manque telle chose. Voilà. Les gens veulent résoudre tout du tic au tac. Nous, on doit montrer que nous, on peut attendre la gloire de Dieu. On peut attendre. Dieu se glorifiera. Amen. Seigneur, merci pour l'exemple de Joseph, qui est pour nous un grand frère sûr. Il est pour nous un exemple sûr, un vrai type de Jésus. Merci de l'avoir ainsi travaillé afin que nous ayons un exemple sûr à suivre. Qu'on ne se croit pas ceux qui souffrent le plus, parce que lui, il a souffert plus que nous, vendu par ses propres frères, menacé de mort, trahi dans la maison de Potiphar, oublié par la personne que lui avait sauvée, Seigneur. Merci de nous aider ainsi à savoir attendre ton action, à savoir attendre ta construction, même quand on est oublié, même quand on est injustement traité, Seigneur, que nous ne cherchons pas le secours de l'homme, nous ne cherchons pas les félicitations des humains, nous ne cherchons pas l'approbation des humains. Joseph, quand il donnait ses songes, le premier songe lui avait créé des problèmes, mais il a donné le deuxième songe bêtement, parce que ce n'est pas l'approbation des humains qu'il cherchait. Il présentait les choses telles qu'elles étaient, Seigneur. Merci de nous aider à être comme ça, simple, te faisant confiance totalement. Merci, Seigneur. Tendre Père, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, tendre Père, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi. Oh, prends ma vie,
prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi.
Oh Jésus, mon Dieu.
Oh Jésus, je m'abandonne à toi.
Oh, je m'abandonne à toi.
Oh Jésus, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi.
Merci Seigneur, à toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Prends nos vies et conduis-nous. Donne-nous de savoir attendre. Comme il est dit dans Lamentations 3, Seigneur, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Gloire et louange à toi Seigneur. Amen.